Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. Aujourd'hui, on va parler de religion, mais au sens plus global du terme, on va parler de culte et de philosophie et dans leur financement. Et c'est avec vous, Caroline Segesser. Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir en tout cas sur les ondes de Radio Campus. Alors, vous êtes historienne de l'ULB, vous êtes chercheuse au CRISP, donc le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique, et également collaboratrice scientifique au CIRL, donc c'est le Centre Interdisciplinaire d'Études des Religions et de la Laïcité, ça c'est à l'ULB.
Tout à fait.
C'est complet.
Absolument.
Et donc, vous venez de sortir un livre, un ouvrage, donc « Financer les cultes et les religions, l'argent public au service du spirituel », c'est aux éditions de l'Université de Bruxelles. Alors, pourquoi ce livre aujourd'hui ?
Alors, pourquoi ce livre aujourd'hui ? Essentiellement pour trois raisons. La Belgique a un système de financement public des cultes et des philosophies qui est totalement archaïque. Il a été condamné récemment, en avril 2022, par la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut donc le modifier. Il a aussi montré ses limites dans le dossier de la reconnaissance du bouddhisme, qui a échoué à la fin de la législature précédente. Et puis, cette réforme, eh bien, elle est en fait au programme du gouvernement Arizona, même si je n'ai pas l'impression qu'on y travaille beaucoup. Mais c'est quelque chose qui est sur la table et donc j'ai trouvé intéressant de remettre un peu le débat sur la table lui aussi et de proposer des pistes de réforme.
Voilà, des pistes de réforme, puisqu'en fait, comme vous le disiez, donc la Belgique finance encore ses cultes comme en 1831. Ça date quand même. Donc on est entre héritage historique, mais aussi on parle de discrimination institutionnelle. Comment donc repenser ce lien entre l'argent public et les convictions privées ? C'est un peu de ça dont vous voulez parler ?
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, la Belgique, c'est un État qui se réforme fréquemment quand il est question de réforme institutionnelle, de transfert de compétences. Mais sur quelque chose d'aussi fondamental que notre rapport avec le religieux, eh bien, on n'a pas bougé depuis l'époque de Napoléon. Donc là, je crois que c'est un chantier qu'on peut ouvrir avec confiance aujourd'hui en se disant qu'on ne va certainement pas trop vite en matière.
Pourquoi vous dites que c'est quelque chose de fondamental ?
Alors, je crois que c'est quand même quelque chose de fondamental aujourd'hui, peut-être davantage qu'hier, parce qu'on est dans une société qui est devenue extrêmement plurielle. Hein. Quand on regarde l'indice de diversité, en fait, dans une enquête récente du Pew Research Institute, qui est un think tank américain, on voit que la Belgique est le 13e pays au monde où l'indice de diversité convictionnelle est le plus élevé. Et quand on regarde la ville de Bruxelles, on se rend compte que dans cette ville, eh bien, la multiculturalité, la multiconfessionnalité sont véritablement très poussées. Et donc c'est très important, quelque part, d'avoir un système qui contribue, je dirais, à un vivre ensemble apaisé, et pas un système qui divise, qui crée des rancœurs, qui discrimine entre les uns et les autres. Donc oui, je pense que c'est quelque chose de fondamental et qui participe de la bonne santé démocratique d'une société.
Alors on parle aujourd'hui donc de... Comment vous avez dit de pluriconfessionnalité,
je ne suis même pas sûr que le mot existe. Oui, pardon. Voilà. Bon, on va dire pluralisme confessionnel, c'est plus clair.
Voilà, c'est ça que je cherchais, ou de diversité confessionnelle aussi. Ça n'a pas toujours été le cas en Belgique, puisque quand la Belgique apparaît, donc on pense à 1830, la Révolution belge, et puis 1831, la première constitution, c'est là qu'on commence à parler de financement des cultes. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Alors vraiment, c'est un système qu'on a hérité du Concordat, donc d'un accord qui avait été conclu entre Napoléon et le pape, qui restaurait l'exercice du culte catholique en France après la Révolution française, et qui établissait une forme d'alliance entre l'Église et l'État. Donc les pouvoirs publics allaient financer les cultes, et en contrepartie, eh bien, l'Église catholique se montrerait favorable au régime, et c'est ce qui s'est passé en Belgique également. On a maintenu un financement public essentiellement au bénéfice de l'Église catholique, et l'Église catholique, eh bien, elle a soutenu le nouveau régime, la création de l'État belge et même la constitution très libérale pour l'époque qui établissait la liberté de culte, la liberté d'association, la liberté d'expression, etc. Et donc tout ça, l'Église l'a accepté, ce qui n'était pas évident pour elle à l'époque, en contrepartie finalement d'un financement public assez généreux.
C'est ça. Et à ce moment-là, on finançait qui, quoi ?
Alors, on finance essentiellement l'Église catholique, qui regroupe 99% des habitants de la Belgique de l'époque, et de façon magnanime et je dirais très généreuse, on a également maintenu un financement public pour les quelques communautés protestantes, alors que finalement le protestantisme c'était en quelque sorte, avec une paire de guillemets, l'ennemi d'hier, puisque on avait été unis à la Hollande majoritairement protestante. Et puis on va aussi financer l'anglicanisme, ce n'est pas grand-chose, un ou deux postes de chapelain, essentiellement parce qu'on dépend beaucoup beaucoup de l'Angleterre à l'époque, et en particulier du commerce avec les îles britanniques. Donc ça paraît une mesure stratégiquement appropriée. Et puis, ce qui est vraiment remarquable, on va aussi soutenir financièrement le judaïsme, à une époque où tout de même l'antisémitisme restait malheureusement la chose la mieux partagée du monde. Et donc on commence avec catholicisme, protestantisme, anglicanisme et judaïsme, ce qui est vraiment remarquable pour l'époque. Et puis au XXe siècle, on va ajouter l'islam, le christianisme orthodoxe, et puis surtout la laïcité organisée, ce qui est vraiment quelque chose de spécifique à la Belgique, de financer ce mouvement laïque avec des mécanismes en tout point parallèles à ceux qui existent pour les cultes. Et c'est aussi quelque chose qui va évidemment consolider le système, parce que ça va contribuer à le rendre un peu plus égalitaire.
Plus égalitaire, moi c'est vrai que c'est étrange de se dire qu'on va financer la laïcité.
Tout à fait, mais c'est le grand paradoxe en Belgique, et c'est quelque chose dont on devrait, je crois, pouvoir sortir. Hein. C'est que la laïcité en Belgique, elle a cette double signification. Tout d'abord, c'est la laïcité en tant que principe politique de séparation de l'Église et de l'État, d'abstention de l'État face aux religieux. Et donc là, on n'est pas à cet égard, on n'est pas vraiment dans un État laïque, puisqu'il n'y a que de songer à l'existence des cours de religion à l'école. Et puis à côté de ce principe de laïcité politique, pour lequel milite d'ailleurs le mouvement laïque en Belgique, on a graduellement eu l'émergence d'une laïcité qu'on qualifiera de philosophique. Et ça, c'est un mouvement qui propose une assistance morale aux personnes qui ne se reconnaissent justement pas dans une religion. C'est un mouvement qui regroupe des humanistes athées ou agnostiques. Et c'est vrai que cette confusion est un peu difficile, parce qu'il est évident que c'est en tant que mouvement, que conception philosophique qui ne se réfère pas à une transcendance, un mouvement humaniste que la laïcité organisée et financée. Et puis à côté de ça, il y a la laïcité, système d'organisation des rapports entre l'Église et l'État, qui, elle, est un bien commun, et il n'est pas nécessaire d'être laïque au sens philosophique pour adhérer à la laïcité au sens politique du terme, évidemment.
Voilà, donc on parle de financement des cultes et des courants philosophiques. Les courants philosophiques, c'est la laïcité, en fait.
Actuellement, c'est la laïcité. Le bouddhisme avait demandé à être reconnu comme deuxième organisation philosophique, et c'est cette demande qui n'a pas abouti il y a 2 ans.
Alors qu'en fait, ils avaient déposé déjà une première demande dans les années 2010.
Oui, c'est véritablement un vieux dossier. Hein. Depuis 2008, l'Union bouddhique belge demande à être reconnue, bénéficie d'un petit subside temporaire. Mais effectivement, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à la reconnaître. C'est-à-dire que pour reconnaître une nouvelle conviction, eh bien, il faut l'adoption d'une loi à la Chambre. Et il n'y a pas eu d'accord politique pour effectivement admettre le bouddhisme parmi les organisations reconnues.
Ce qui est étrange, parce qu'aujourd'hui, donc, vous disiez hein, au départ, il y a donc la religion catholique, le protestantisme, l'anglicanisme, le judaïsme qui sont reconnus. Aujourd'hui, donc à partir de 1974, si je ne m'abuse, l'islam. Ensuite, en 1985,
le christianisme orthodoxe,
voilà. Et puis, donc, la laïcité. Pourquoi est-ce que le bouddhisme n'aura pas sa place ?
Je crois que si le bouddhisme avait demandé à être reconnu en tant que culte, cette reconnaissance aurait sans doute été validée. Ce qui a posé problème à pas mal d'acteurs, d'observateurs, de députés, c'est la demande d'être reconnu comme organisation philosophique. Alors, même si, a priori, ce n'est pas le rôle de l'État de décider de ce qui est une religion, de ce qui est une philosophie, je crois que ça a gêné beaucoup de monde que le bouddhisme se réclame donc d'une philosophie et non pas d'une religion. Et puis, je crois qu'il y avait aussi tout de même un peu le sentiment que ce système est en bout de course. Il y avait déjà eu la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, il y a ce mécanisme particulier qui articule la reconnaissance des courants convictionnels à l'organisation des cours dans l'enseignement officiel. Et donc, si le bouddhisme avait été reconnu par l'autorité fédérale, les communautés auraient été obligées d'organiser des cours de bouddhisme dans les écoles. Et nous connaissons la situation financière, en particulier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, on peut comprendre aussi qu'il y a eu des réticences à l'idée de devoir encore organiser un cours supplémentaire, alors que déjà maintenant, la situation est vraiment très compliquée, notamment pour les directeurs d'établissements, de jongler plutôt entre ces différents cours qu'ils doivent proposer à leurs élèves.
Donc c'est ça, tous les cultes reconnus par l'État, en fait, doivent d'office avoir un cours proposé dans
Absolument.
L'enseignement obligatoire, mais de l'État, pas dans l'enseignement...
Tout à fait, donc c'est le prescrit de l'article 24 de la Constitution, et effectivement, c'est quelque chose qui est particulièrement lourd. Alors il y a tout un débat parallèle, je vais dire, sur l'avenir des cours de religion. Hein. Dans les écoles francophones, on a déjà réduit le volume horaire à 1 heure par semaine pour faire de la place aux cours de philosophie et de citoyenneté. Alors il y a toute une discussion quant à l'opportunité de généraliser 2 heures de philosophie et de citoyenneté pour tous les élèves. et à proposer simplement des cours de religion de façon optionnelle en dehors de l'horaire, mais ça n'a pas abouti jusqu'à présent non plus. Donc, dans l'état actuel des choses, il y a toujours cette articulation entre la reconnaissance et le cours de religion qui est effectivement un dispositif assez lourd à mettre en œuvre.
Et qui est aussi finalement un principe qui va diviser les élèves, parce que subitement, en fait, les élèves, selon leurs convictions religieuses, vont se retrouver dans une classe différente.
Oui, c'est très particulier. En Belgique, il y a un respect de la confidentialité des opinions religieuses et philosophiques des citoyens, fort heureusement, à l'exception d'une circonstance. Quand vous amenez votre fils ou votre fille à l'âge de 6 ans pour l'inscrire dans une école primaire d'un réseau officiel, eh bien là, justement, on va vous demander de choisir entre un cours de religion, un cours de morale non confessionnelle. Et donc, la logique, c'est évidemment de dire, vous ne dévoilez voilez pas vos convictions, vous vous contentez d'inscrire votre enfant, mais en pratique c'est un peu la même chose. Et puis c'est vrai que à partir du moment où l'église, c'est un lapsus intéressant, à partir du moment où l'école doit construire des citoyens, doit leur apprendre à vivre ensemble, doit un peu quelque part remettre en perspective l'ancrage convictionnel du milieu familial, séparer les enfants par conviction, c'est une forme de ségrégation qui paraît peu judicieuse aujourd'hui. Alors maintenant, c'est un autre débat, il y a beaucoup d'arguments qui plaident pour la suppression de ces cours, il y en a quelques-uns qui plaide pour leur maintien, hein, le fait d'offrir une autre vision de la religion que celle que peut-être on offre dans la sphère privée, le fait de reconnaître l'identité des enfants, le fait qu'il y ait encore un énorme réseau d'écoles catholiques et que donc si on supprime les cours de religion, ben, ça ne pose pas un problème pour les familles catholiques qui trouveront toujours une école catholique. Par contre, ça va priver les autres familles d'un enseignement conforme à leurs convictions. Donc, c'est un dossier compliqué, mais c'est sûr que c'est un dossier qui devrait aussi avancer, mais ce n'est effectivement pas l'objet de mon livre qui se contente plutôt de réfléchir aux mécanismes de financement des églises, des mosquées et des synagogues.
Et voilà justement, merci de revenir dessus parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi en faire une émission complète. Je crois qu'on l'a déjà fait d'ailleurs. Et donc par rapport à ce financement des cultes et des courants philosophiques, est-ce que quelque part on n'est pas à côté de cette fameuse séparation de l'église et de l'État ?
Oui, c'est certainement un argument qui milite pour une réforme. Hein. Alors bon, je crois qu'en fait, non seulement je crois, mais je sais que dans tous nos États européens, qui sont des États dont le périmètre d'action est extrêmement large, il y a toujours un financement des cultes. Alors nous avons en Belgique francophone, voilà l'idée du modèle français, mais on peut rappeler que bon, d'abord en Alsace-Lorraine, il y a un financement direct, c'est une autre question, mais dans le reste de la France aussi, il y a un soutien financier qui est indirect par le biais de la déductibilité des dons. Si effectivement un don que vous faites à une organisation religieuse est déductible fiscalement, eh bien ça veut dire qu'il y a un financement public indirect de l'ensemble de la communauté. Et puis par ailleurs en France, il y a énormément d'édifices religieux, surtout des églises catholiques, qui appartiennent à des pouvoirs publics, à l'État. On l'a vu dans le dossier du dramatique incendie de Notre-Dame de Paris, hein, c'est effectivement l'État français qui a organisé, financé la reconstruction. Donc il y a là aussi un financement indirect dans la mesure où ces bâtiments sont entretenus par la collectivité et sont remis gracieusement à l'Église catholique pour l'exercice du culte. Donc il y a toujours quelque part des mécanismes de financement. Donc il faut plutôt, à mon sens, réfléchir aux modalités plutôt que, effectivement, aux principes. Et en Belgique, effectivement, ces modalités héritées de Napoléon, eh bien, traduisent une proximité beaucoup, beaucoup trop grande, à mon sens, entre les pouvoirs publics et les cultes. Deux exemples, les salaires des ministres des cultes sont payés directement par l'autorité fédérale et les implantations locales sont administrées par un établissement public, donc quelque chose de la même nature qu'un CPS, finalement. Pour le cas, le culte catholique, c'est la fabrique d'églises. Pour les autres cultes, c'est autre chose. Mais donc là, il y a une proximité qui est très dérangeante. Par exemple, pour les ministres des cultes, l'État finance leur salaire, mais n'a rien à dire quant à leur sélection, quant à leur choix. Et par exemple, ils financent des postes qui sont inaccessibles aux femmes. C'est tout de même quelque chose qui pose question au jour d'aujourd'hui de tolérer effectivement cette discrimination genrée.
Donc c'est ça. Donc en fait, l'argent de l'État pour financer les cultes, ça va pour le salaire, finalement, des ministres de culte. Donc, si on prend la religion catholique, on connaît beaucoup plus, hein, peut-être, c'est les curés, en fait, qui font la messe le samedi.
Tout à fait,
dimanche,
tout à fait.
Voilà, donc ça, leur salaire est payé par l'État.
Exactement.
Directement.
Directement, tout à fait.
Parce qu'en fait, cet argent-là donc, va directement aux personnes, mais il y a quand même, si on parle de financement, est-ce qu'il y a à chaque fois une entité qui reçoit cet argent, en fait ?
Non, en l'occurrence, le salaire est payé directement au ministre des cultes. Il n'y a pas une entité centralisatrice qui reçoit cet argent. Donc les deux grands mécanismes de financement, c'est le paiement des salaires, et puis c'est la couverture du déficit des fabriques d'église. Donc chaque année, elles déposent leur budget, et puis elles annoncent, voilà, les dépenses auxquelles nous devons faire face, voici les recettes dont nous disposons, et la commune ou la province ou à Bruxelles, la région, doit combler le trou, en quelque sorte, pour être sûr, pour assurer que l'exercice du culte puisse effectivement avoir lieu. C'est aussi un mécanisme archaïque et quelque part de mauvaise gouvernance, puisque plus, je dirais, la fabrique d'église a de dépenses, et plus l'intervention des pouvoirs publics va être élevé. C'est un peu daté comme mécanisme.
Mais ça fonctionne toujours comme ça.
Ça fonctionne toujours comme ça, mais avec quelques grognements de ci, de là, et puis quand même aussi avec des négociations, parce que l'Église catholique n'a plus autant de fidèles qu'autrefois, et il y a beaucoup d'églises, on a fusionné les communes en Belgique, on n'a pas fusionné les fabriques d'églises, et donc il y a tout de même quelque part des discussions qui se font, d'autant plus que le bourgmestre a un droit de regard sur la fabrique, et donc voilà, ce n'est plus automatiquement toutes les dépenses qui sont couvertes, on discute, on dit, ben bon voilà, dans telle église, le culte n'est plus assuré régulièrement, on va peut-être remettre la réfection de la façade ou de la toiture à une date ultérieure. Donc voilà, il y a quand même, je dirais, des limites qui sont apportées, au moins dans les faits, si pas dans les principes.
On parle beaucoup de la religion catholique parce que c'est peut-être celle qu'on connaît le mieux, nous ici, en tant que personne issue de la Belgique et de peut-être de tradition judéo-chrétienne. Malgré tout, en Belgique, donc, il y a six cultes qui sont financés. J'ai des problèmes avec les chiffres aussi. Donc, il y a six cultes qui sont financés. On parle beaucoup de la religion catholique parce qu'on la connaît mieux peut-être, mais est-ce que c'est celle aussi qui va avoir la plus grande part du gâteau, si on peut dire.
Oui, tout à fait. Donc, on est sur l'ordre de 75% des montants alloués, sachant que l'ensemble coûte environ 300 millions d'euros chaque année, en ne prenant pas en compte les cours de religion, parce que c'est une dépense différente et que finalement, ces heures de cours, elles seront remplacées par autre chose. Donc, on ne va pas faire une économie si on supprime les cours de religion de ce montant-là. Donc, le périmètre plutôt salaire et dépenses en faveur des implantations locales, c'est 300 millions d'euros et 75 millions pour le culte catholique, sachant que c'est un pourcentage qui diminue chaque année, parce que le nombre de ministres du culte catholique, lui aussi, diminue chaque année, tout simplement par suite des départs naturels. Et donc la proportion des autres cultes, elle augmente légèrement. Alors la deuxième communauté la mieux financée, c'est la laïcité organisée, entre 10 et 15% des montants. Et puis les cultes minoritaires, on va dire, se partagent le reste. Et voilà, il n'y a pas de clé de répartition préétablie. Donc ça dépend un peu du nombre de communautés qui ont été reconnues, du personnel disponible, donc on n'a pas du tout de clé de répartition, ce qui est vraiment un problème, et donc on ne peut pas non plus vraiment juger de l'adéquation des montants. Je crois qu'il y a une chose en tout cas qu'on peut dire, c'est que le culte islamique, qui est la deuxième religion la plus pratiquée dans notre pays, c'est un culte qui est clairement sous-financé actuellement.
Oui, c'était ça, c'est qu'en fait, le paysage finalement confessionnel, on peut dire ça comme ça, de la Belgique a fortement changé depuis 1831, donc 1831. Vous nous disiez donc qu'il y avait 95% de la population qui était catholique. Aujourd'hui, on n'est clairement plus là-dedans.
On n'est clairement plus là-dedans. Alors, on n'a pas de recensement des convictions.
Non,
on
n'a
même
pas.
Non, on ne peut pas. On a fait un recensement en 1846. On n'a pas recommencé. Alors, on a des enquêtes scientifiques, mais bon, elles sont d'une grande pauvreté. Donc, il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Et puis, par ailleurs, bon, dans cette matière, il faut distinguer la conviction de la pratique. Et dans la pratique, la pratique régulière de la pratique occasionnelle. Donc on peut dire par exemple pour l'Église catholique qu'il y a encore 51% de la population en Belgique qui se déclare catholique. On peut observer que seul à peu près 30% des nouveau-nés reçoivent un baptême catholique. Et puis on peut observer que seulement 1,5% de la population se retrouve à la messe un dimanche ordinaire. Donc tout dépend un peu de l'instrument de mesure qu'on retient, sachant aussi que c'est difficile d'avoir un instrument de mesure que l'on pourrait appliquer uniformément à toutes les religions. Le baptême, c'est propre aux églises chrétiennes. D'un autre côté, le fait de se rendre régulièrement à l'église, c'est aussi quelque chose d'assez spécifique au christianisme. Par exemple, l'islam est une religion que l'on pratique beaucoup plus à la maison, dans le cadre familial. On peut très bien suivre le ramadan sans pour autant se rendre tous les soirs à la prière, à la mosquée. Donc voilà, les indices devraient être affinés, différents, et de toute façon, nous n'avons pas de chiffres fiables qui nous diraient voilà exactement quelle est la répartition des convictions dans la population. On sait aussi que le deuxième groupe convictionnel, c'est clairement les gens qui sont sans affiliation religieuse, les non-croyants, qui sont entre 35 et 40% de la population. C'est aussi un groupe qui est évidemment en forte croissance. Généralement, quand on abandonne la pratique religieuse catholique, on se retrouve dans ce groupe des non-croyants ou des irreligieux.
Bye.
Alors, il y a quelques années, il y a quand même une vingtaine d'années, il y a eu tout un mouvement comme ça de débaptisation. Enfin, je sais pas, les personnes se débaptisaient et on incitait les personnes à se débaptiser pour que, entre autres, les subventions. On peut parler subventions ?
Pourquoi pas ?
Ok. Que les subventions à l'Église catholique diminuent. Ça n'avait rien à voir alors.
Non, effectivement, ça n'avait rien à voir. Et la débaptisation, entre guillemets, qui est en fait une demande de faire apposer dans le registre des baptêmes une mention du type « a renié son baptême », etc. Ben, c'est une démarche qui apporte une satisfaction personnelle aux personnes qui la conduisent. Mais ça n'a aucune influence ni sur le dénombrement des croyants, ni encore moins sur le financement.
Voilà, donc ça c'est fait, parce que je me suis posé la question à un moment, il y avait tout ce mouvement, enfin c'était aussi, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, mais ça, oui. C'était vraiment quelque chose qui tournait beaucoup.
Oui, c'est un mouvement qui revient régulièrement, enfin moi je m'en souviens, il y avait déjà eu un grand mouvement de débaptisation à l'époque de Jean-Paul II, lorsque Jean-Paul II avait eu des propos, je ne sais plus si c'était à propos de la contraception et de l'usage du préservatif en Afrique, c'est des propos qui avaient beaucoup choqué, donc il y avait eu un premier mouvement, véritablement une lame de fond de débaptisation, et puis je dirais chaque fois qu'il y a un scandale qui touche à l'Église catholique, eh bien il y a une nouvelle vague récemment suite aux révélations des cas de pédophilie dans le cadre du clergé catholique, et ça a entraîné une nouvelle vague de ces débaptisations.
Alors voilà, donc on est, pour vous, vous dites donc qu'on est dans un système inégalitaire et obsolète par rapport à ce financement. Pourquoi ? Donc on l'a un peu plus ou moins dit en filigrane, mais donc clairement, pourquoi on parle d'inégalité ? C'est cette clé de répartition qui n'est pas vraiment une clé de répartition.
C'est un premier point, qu'effectivement il n'y a pas de clé de répartition des subventions entre les différents courants reconnus. Mais alors, en amont, il y a une discrimination forte entre les courants qui sont reconnus et qui ont donc accès à un financement très important, et puis les autres qui n'ont rien. Mmh. Donc c'est une première discrimination entre les reconnus et les non reconnus. Et puis il y a la discrimination à l'intérieur des reconnus, absence de clé de répartition, absence de transparence. Et puis il y a ce troisième problème que nous avons déjà évoqué, c'est que c'est un système qui met les cultes et les pouvoirs publics dans une trop grande proximité. Donc à mon avis, ce sont les trois grands problèmes que pose actuellement le système et qui justifient qu'on réfléchisse à une réforme en profondeur.
Alors pourtant, l'État ici en Belgique n'a aucun droit de regard sur qui est nommé.
Tout à fait. Donc c'est véritablement ce problème pour prendre un plan juridique, de tension entre deux articles de la Constitution. L'article 21 qui interdit à l'État de s'immiscer dans la nomination des ministres des cultes et qui a généralement été interprété par les juridictions d'une façon très très large. Hein. On entend ministre du culte aussi, ben, par exemple, les professeurs de religion, les inspecteurs, etc. Et puis l'article 181 qui impose à l'État de payer ces mêmes ministres du culte. Et donc à l'époque, ça pouvait se comprendre. Hein. C'était maintenir les bénéfices que Napoléon avait octroyés à l'Église, mais tout de même soustraire l'Église au contrôle des pouvoirs publics, parce que c'est précisément ce contrôle que l'Église catholique en Belgique ressentait fortement à l'époque hollandaise. Mais aujourd'hui, deux siècles plus tard, il doit quand même y avoir une logique de contrôle de l'utilisation des deniers publics qui s'impose. Alors, d'un côté, évidemment, respecter l'autonomie des cultes, la liberté de culte, mais d'un autre, dire à partir du moment où vous sollicitez un financement, ce à quoi personne ne va vous obliger, eh bien, il doit y avoir tout de même un contrôle un peu plus étroit de la façon dont cet argent est dépensé.
Cet argent est dépensé, parce qu'on ne l'a pas dit, mais enfin, on s'en doute évidemment, si on parle d'argent public, cet argent vient donc bien, bel et bien de nos impôts.
Absolument.
Et donc, il y a une estimation que j'ai pu lire, vous allez me dire si elle est juste ou pas, c'est à peu près 50 euros par personne, par Belge, par an.
Ça me paraît un peu excessif. Disons, ça doit comprendre à ce moment-là les cours de religion. Puisque moi, je vous dis, c'est environ 300 millions et nous sommes 11 millions. Mais donc voilà, cette estimation, au-delà des 50 euros, ça comprend les cours de religion. Okay. Je pense.
Mais donc voilà, et donc certaines personnes pourraient dire qu'en fait, ça vient de nos impôts, je fais partie d'aucune religion, donc moi je paye pas.
Oui, mais je crois que cette démarche, on peut l'entendre, ce raisonnement, effectivement, et dire tiens, mais chacun devrait plutôt financer son culte sur ses propres deniers. Maintenant, quand on y réfléchit un peu, l'ennui de ce type de financement, si l'État n'intervient plus, eh bien, c'est que les cultes dont les adeptes sont fortunés vont continuer à avoir de gros moyens, et puis les cultes dont les adeptes sont moins fortunés n'en auront pas. alors que c'est plutôt eux qui ont besoin d'un soutien, par exemple, pour s'assurer que les bâtiments dans lesquels le culte est organisé soient conformes aux normes de sécurité, d'incendie, etc. Donc on peut se demander s'il ne faudrait tout de même pas plutôt que l'État finance en fonction d'un besoin qui est constaté. Et puis on peut tout de même souligner que dans notre démocratie, le principe d'unicité du budget est là. Nous acceptons en tant que citoyens que notre argent soit dépensé par l'État en fonction du budget qui a été adopté par nos représentants au Parlement. Et donc on peut imaginer qu'un citoyen pacifiste soit mécontent que son argent serve à la défense, surtout aujourd'hui dans le contexte de réarmement. On peut imaginer qu'un écologiste estime qu'on dépense beaucoup trop pour l'entretien des routes et des autoroutes, ou qu'on ne dépense pas suffisamment pour les moyens de transport moins polluants, les moyens de transport public. Donc voilà, on n'est certainement pas chacun en accord, y compris sur un plan, je dirais, principiel, philosophique, avec certaines dépenses qui sont faites. Mais quelque part, on accepte en se disant, voilà, c'est quelque part le principe. Alors moi, je ne suis pas convaincu que le financement des communautés convictionnelles soit d'une nature tellement différente qu'il autorise à se soustraire à ce principe de solidarité.
Voilà, il faut le garder. Même quand on fait des économies d'État, quand l'État doit faire des économies, parce que 300 millions, c'est quand même énorme.
Oui, alors je crois qu'il y a moyen de faire des économies. Sans doute que le poste qui pourrait le plus faire l'objet d'économies, c'est celui des bâtiments. Mais c'est compliqué. On a beaucoup d'églises en Belgique. Je dis souvent que l'église catholique a beaucoup plus de pierres que de bras. Et donc, il faut réaffecter certaines églises, même beaucoup d'églises. Mais c'est un bâtiment qui n'est pas très multifonctionnel. Donc, ce n'est pas que l'église catholique rechigne à réaffecter des églises, d'abord à la désacraliser et puis accepter qu'elles soient réaffectées à un autre usage. Mais c'est qu'il n'y a pas tellement d'usages possibles. Dans une commune, une fois qu'on a un centre culturel, une salle de concert, on n'en a pas besoin de 36. Et compte tenu des normes énergétiques actuelles, c'est très très difficile à reconvertir, par exemple, en logement. Donc voilà, on a un problème avec les édifices, clairement, et donc c'est sans doute là que l'effort devrait se porter.
Pourtant, au niveau des édifices, il y a quand même tout un côté aussi patrimoine culturel, j'imagine, architectural.
Oui, donc effectivement, certains édifices ont clairement une valeur patrimoniale importante. Il faut continuer à les entretenir, à les maintenir, ce qui ne règle pas la question de l'usage. Le bâtiment est entretenu, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Il y en a d'autres qui, sans doute, n'ont pas la même valeur patrimoniale. Je pense à toute une série d'églises paroissiales construites dans les villages entre 1870 et 1950. Voilà, on a des centaines d'exemples de ce type d'édifices. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra oser se dire, peut-être qu'on abandonne ou qu'on démolit. Mais on sent aussi que c'est quelque chose qui souvent suscite des réactions émotionnelles auprès de la population. Une population qui ne se rend plus à l'église, mais qui est même attachée à la présence symbolique du clocher au milieu du village. Ce sont des sujets compliqués.
Alors justement, quand vous parlez de réforme, qu'est-ce que vous entendez ? Enfin, comment est-ce que vous pouvez imaginer ? Comment vous imaginez en fait une réforme ?
Oui, donc il y a beaucoup de pistes qu'on peut exploiter. On peut imaginer une réforme comme les Pays-Bas l'ont conduite déjà au début des années 80, c'est-à-dire mettre fin à toute forme de financement direct et instaurer un peu comme en France la déductibilité des dons. Donc voilà, à ce moment-là, c'est l'initiative privée qui va continuer à financer le culte. On peut imaginer un système à l'italienne d'impôt philosophiquement dédié, c'est-à-dire que le citoyen va choisir sur sa feuille d'impôt à quelle communauté convictionnelle il souhaite qu'une fraction de son impôt soit affectée. Donc ça répond à la question de l'objection de conscience. Les gens qui ne veulent pas financer pour des cultes auxquels ils n'adhèrent pas, par contre, voilà, ça ne répond pas à la question de savoir si on finance véritablement un besoin ou si on renforce juste le compte en banque de certaines convictions. Alors moi, dans ce bouquin, je propose une autre piste, qui est en fait de tout redescendre au niveau local et d'établir un genre de système un peu calqué sur l'éducation permanente, où on aurait des communautés convictionnelles qui réclameraient un subside, qui d'abord demanderaient un agrément, et puis qui réclameraient un subside à condition qu'elles correspondent à toute une série de critères, donc un lieu de culte ouvert sur le quartier, des activités organisées au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Donc on pourrait imaginer une série de critères, parce qu'il faut dire que le système actuel a un autre gros problème, qui n'est pas celui de l'inéquité, encore que si quelque part, c'est-à-dire que c'est un système qui demande que chaque courant convictionnel dispose d'un organe représentatif unique. Parce que c'est cet organe qui va, par exemple, dire à l'État « voilà la liste des ministres du culte que vous devez financer, puisque, comme on l'a dit, l'État ne choisit pas. Mmh. Et donc, pour le culte catholique, pour qui le modèle a été pensé, ça ne pose aucun problème. Les évêques transmettent la liste des prêtres qui sont nommés et qu'il faut financer. Pour tous les autres cultes, c'est un problème. Alors, les déboires de l'exécutif des musulmans ont fait la une des médias, donc on connaît effectivement le problème qu'il y a à déterminer un organe représentatif unique pour tous les musulmans de Belgique, que leurs origines familiales se trouvent au Maroc, en Turquie, au Pakistan, en Albanie ou ailleurs, qu'ils soient sunnites ou chiites. Donc il y a une complication pour un culte qui ne connaît pas au départ de clergé hiérarchisé. Ouais. Mais en fait, cette complication se pose pour tout le monde. C'est un archevêque grec orthodoxe qui représente l'ensemble des orthodoxes, qu'ils soient russes, ukrainiens, serbes ou bulgares. Pour le judaïsme, eh bien, c'est un consistoire composé de rabbins orthodoxes qui représentent le judaïsme, alors qu'à Bruxelles, eh bien, la communauté la plus dynamique, c'est celle du judaïsme libéral. Au sein du protestantisme, il y a des courants extrêmement différents aussi. Donc en fait, on est sur un modèle qui exige cette représentation unique, et cette représentation unique, tous les cultes, je dirais, à part l'Église catholique et sans doute l'Église anglicane, tous les cultes ont quelques problèmes à fournir cette représentation unique. Donc si on parvenait à descendre le financement à l'étage, au niveau le plus inférieur, je me dis que ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée.
Et peut-être qu'en fait, dans ce que vous dites, il y a aussi une impression en fait, d'ouverture. Et on a l'impression quand même que les cultes sont assez, c'est peut-être ma vision des choses, hein, sont assez renfermés sur elles-mêmes.
Oui.
Et que là, il pourrait y avoir peut-être une ouverture à toute personne non-croyante. Parce que quand vous parlez d'activités dans
oui,
le quartier, dans le village.
C'est un peu l'idée. Les églises, ben, c'est un patrimoine culturel qui nous concerne tous. Mm-hmm. Hein, donc effectivement, pouvoir maintenir les églises ouvertes à la visite, par exemple, ce serait un bon critère, même si on sait que c'est compliqué parce qu'il y a des vols, etc. Mais je crois qu'il faut pas... Il faut essayer d'éviter le repli. Je dirais des communautés convictionnelles sur elles-mêmes. Et puis aussi, cette représentation figée, ça veut dire qu'on a des chefs de culte qui sont, dans la plupart des cas, des hommes d'un certain âge, voire d'un âge certain. Alors, j'ai le souvenir, ce gouvernement-ci ne l'a pas encore fait, à mon avis, mais j'ai le souvenir de réunions autour du Premier ministre ou du ministre de la Justice qui est responsable des cultes, des responsables des cultes.
Alors, c'est ministre de la Justice.
Oui, c'est ministre de la Justice. Okay. À un moment donné, en tout cas, après les attentats de Paris et Bruxelles, il y avait eu des réunions de tous les chefs de culte. Et alors, vous avez l'archevêque de Malines-Bruxelles, vous avez le grand rabbin de Bruxelles, vous aviez le président de l'exécutif, pasteur président du synode. C'est tous des hommes d'un certain âge.
Ah ouais.
Ça ne représente pas du tout la diversité de la population, la diversité convictionnelle. Il faudrait aussi avoir que les pouvoirs publics puissent promouvoir davantage le rôle des femmes, mm-hmm, à l'intérieur de ces communautés.
Donc, ça, voilà, c'est un travail au niveau des religions. Enfin,
Si les religions étaient féministes, ça saurait.
Oui,
c'est
bien
clair.
Sûr, c'est ce que je dis.
Mais donc
que,
voilà,
je
crois que globalement aussi, le financement public doit nous servir à soutenir des courants progressistes à, mm-hmm, l'intérieur des différentes religions. C'est dans notre intérêt à tous et à toutes. Et donc effectivement, si on ne passait pas forcément par cette représentation unique qui est généralement confisquée par des hommes d'un certain âge, eh bien peut-être qu'on arriverait justement à promouvoir davantage cette diversité des profils au sein des religions.
Ce qui est quand même le truc de départ, enfin, c'est quand même la base des religions, c'est quand même cette ouverture... A priori, ça devrait être.
Ah, ça devrait l'être, en tout cas.
Ça devrait l'être,
voilà,
en tout cas.
Oui, oui, oui.
Voilà, Caroline Seguesser, on arrive à la fin de cette émission. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Financer les cultes et les philosophies, l'argent public au service du spirituel ». Et c'est vrai que c'est du spirituel parce que c'est important de dire, en fait, que ça concerne le spirituel, devrait concerner aussi plutôt, c'est plutôt privé aussi, quelque part.
Oui, alors est-ce que c'est uniquement privé ? Ben, je ne crois pas. Bon, ça va, ouais, nous entraîner dans un trop, trop long débat. Bon, d'abord, on peut rappeler que l'exercice public du culte est une liberté constitutionnelle garantie. Et ensuite, dire que nous sommes quand même tous et toutes motivés par nos convictions. Et donc, quelque part, ces convictions, la façon dont nous les vivons, eh bien, ça a un impact sur notre activité dans la société tout entière.
Donc voilà, donc, l'argent public au service du spirituel, c'était donc le sous-titre quelque part de cet ouvrage, cette édition de l'Université de Bruxelles. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres possibilités d'émissions autour de ça et entre autres autour de l'enseignement aussi. Bah, on espère que ce livre pourra faire bouger les choses.
Mais je l'espère aussi. Je vous remercie très vivement pour cet entretien.
Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.